Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons revenir à notre thème, à savoir comment voir l'invisible.
On peut arrêter ça?
Comment voir l'invisible? La foi en Dieu, la foi de Dieu. C'est important de faire le distinguo entre d'une part la foi en Dieu, cette confiance totale et entière que nous avons dans la personne du Christ, et puis ensuite la foi de Dieu, celle dont nous avons besoin, à un moment bien précis de notre vie, face à un problème, face à une épreuve, face à toutes sortes de tempêtes de la vie, eh bien, Dieu suscite cette foi pour nous faire entrer dans l'univers du surnaturel et ainsi nous permettre de vivre et d'expérimenter le miracle. Alléluia. Et cette foi donc que les apôtres ont demandé dans Luc chapitre 17, nous allons lire bientôt ce passage, eh bien n'a rien à voir avec la foi du salut. Cette foi, eh bien, qui est au début de toute expérience chrétienne. Il s'agit donc de la foi qui nous permet, mes amis, de voir l'invisible, de pouvoir impacter l'invisible et expérimenter des changements dans notre vie ici-bas. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et cette foi-là, mes amis, ne nous tombe pas du ciel comme ça, comme par hasard. Elle est le résultat d'une démarche en amont. Elle est donc le résultat, la résultante de choses que nous devons absolument faire en amont pour qu'enfin, en aval, nous puissions expérimenter cette foi qui nous fait entrer dans l'univers du surnaturel, qui nous fait entrer dans cet univers où finalement, eh bien, tout devient possible. Cette foi qui nous permet de nous adresser aux obstacles et de voir les obstacles bouger. Alléluia. Ordonner à la maladie et voir la maladie s'en aller. Ordonner à n'importe quelle montagne qui se tient ou se dresse devant nous et voir cette montagne, eh bien, nous laisser la place et nous permettant ainsi de poursuivre notre route. Et donc, il s'agit de cette foi. Elle naît d'abord au travers d'une relation que nous, serviteurs du Seigneur, avons avec tout ce qui concerne le Maître. Notre Maître a des biens, notre Maître a son troupeau, il a son champ, et il nous appelle donc à être actifs dans tout ce qui lui appartient. Vous voyez, ça c'est le premier type de relation, voyez-vous. Et nous devons tout faire pour approfondir cette relation qui nous lie au bien, qui nous lie à l'œuvre de Dieu. C'est donc avec cette relation que nous pouvons être actifs dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons être actifs dans le champ de Dieu, puisque c'est une des métaphores, une des images que le Seigneur utilise dans la parabole que nous allons lire bientôt. Voyez. Et donc, c'est cette relation qui nous permet d'être actifs parmi les troupeaux du Seigneur. Et donc, si nous soignons cette relation, ce premier type de relation, nous aurons rempli une bonne condition pour permettre à Dieu, eh bien, de susciter cette foi dont nous avons besoin pour expérimenter les miracles. Et gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, le thème c'est le même. Hein? Comment voir l'invisible, la foi en Dieu, la foi de Dieu. Verset 5 de Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras, toi, tu boiras. Après cela, alors, je pourvoirai à tes besoins. Et le verset 9, aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc, il n'y a aucune raison de tirer gloire à partir de ce que le Seigneur fait à travers nos vies. Vous voyez? C'est donc lui qui nous rend capables. C'est lui qui accomplit le miracle. Nous ne sommes que des simples outils, des simples instruments dont il se sert pour la manifestation de son règne ici-bas. Alléluia. Et quand le règne se manifeste, alors là, des signes et des prodiges peuvent prendre place. Alors là, des miracles deviennent possibles. Voyez-vous? Que Dieu soit béni. La fois dernière, nous avons donc abordé par rapport à ce type de relation, c'est-à-dire la relation qui nous lie au Seigneur. Nous avons parlé du fait d'être actif sur le plan social et sur le plan matériel. Car au niveau de cette relation, il n'y a pas que le spirituel qui compte, c'est-à-dire prier pour l'œuvre de Dieu, intercéder pour les âmes, prier pour que Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre, prier pour que le Seigneur attire les âmes à lui, être des outils entre tes mains pour le salut des âmes, pour la libération ou la délivrance des captifs du diable. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le fait d'être d'être actif sur le plan spirituel, mais nous l'avons vu le dimanche dernier, que nous sommes appelés à être aussi actifs sur le plan social, sur le plan matériel. Alléluia. Et donc, nous avons ce lien avec l'œuvre de Dieu. Et par rapport à cette œuvre-là, eh bien, nous devons nous rendre utiles. Nous devons utiliser tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. Utiliser tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous rendre utiles par rapport aux différents besoins qui se posent dans l'Église et même au-delà. Et pour nous permettre de comprendre le bien fondé, d'être actif sur le plan social, d'être actif dans le domaine matériel. Et quand je parle de domaine matériel, je parle aussi de domaine financier. Eh bien, nous avons pris l'exemple d'une sœur, d'une femme qui était disciple, qui avait rencontré le Seigneur comme vous et moi, et qui avait compris dès le départ l'importance, mes amis, d'être actif sur le plan social. L'importance de poser des gestes par rapport au troupeau du Seigneur, par rapport à ce qui appartient au Seigneur. Vous voyez, comme ce serviteur de la parabole était donc appelé à être actif parmi les troupeaux de son maître, mais aussi appelé à être actif dans le champ de son maître. Nous aussi. Et cette sœur avait bien compris, il s'agit de Tabitha, dans Actes chapitre 9. Cette femme était disciple du Seigneur. Cette femme avait expérimenté le salut. Cette femme avait compris non seulement l'importance, la nécessité d'entretenir sa relation sur le plan vertical avec son Seigneur, mais il avait aussi compris que Dieu l'appelait à avoir une attitude généreuse, à avoir, eh bien, à poser des actes qui vont dans le sens de cette relation que nous sommes appelés à avoir avec tout ce qui appartient au Seigneur. Alléluia. C'est ainsi qu'il nous est dit dans Acte 9, que cette sœur, Tabitha, qui veut donc dire gazelle ou Dorcas en grec, était une femme d'exception. Une femme très généreuse. Une femme qui avait compris l'importance de semer, voyez-vous, en étant utile par rapport à tout ce qui appartient au Seigneur. Elle faisait des tuniques, elle faisait des manteaux, qu'elle donnait aux veuves, qu'elle donnait aux femmes qui n'avaient pas suffisamment de moyens. Elle avait donc un très bon témoignage dans son église, vous voyez. Là, à Jaffa ou à Jopé, tout le monde parlait du bien de cette femme. Vous voyez? Et donc, tout le monde était au courant de sa générosité, de l'amour fraternel. Elle avait compris l'importance d'être actif dans tout ce qui appartient au Seigneur, d'être actif par rapport aux veuves de son Église, par rapport aux gens qui étaient dans le besoin. Alléluia. Là, nous sommes dans ce type de relation, la relation que le serviteur esclave est appelé à avoir avec tous les biens qui appartiennent au maître, et les âmes, et les veuves, et toutes ces personnes qui ont eu à bénéficier de ses largesses, de sa générosité, mes amis, de tous ces actes de bienfaisance, eh bien, ces âmes-là appartiennent à qui? Au Seigneur. Alors, elle s'est rendue active par rapport à tout cela. Et puis, un jour, la mort frappe à sa porte. Cette femme décède. Évidemment, pour la petite église de Jaffa, c'est la catastrophe. Voyez, c'est la catastrophe. Pour cette église, pour les veuves, pour les gens de cette assemblée, les saints, comme Luc les appelle dans Actes chapitre 9, c'était une perte immense. En mourant, cette femme a laissé un vide. Voyez-vous, personne n'a accepté sa mort. Voyez-vous, et comme Dieu fait bien les choses, l'apôtre Pierre n'était pas loin. Voyez-vous, il était à Lydda, où il venait d'accomplir un miracle. Et ainsi les gens, ayant appris que Pierre n'était pas très loin, ont constitué une délégation. Ils ont envoyé des gens, deux disciples, qui ont fait le voyage, qui ont payé le prix. Qu'est-ce qui avait motivé ces gens-là? Parce que Tabitha n'était pas la première femme à mourir dans cette ville-là, oui ou non? Voyez-vous? Qu'est-ce qui avait motivé cette démarche? Pourquoi ces gens-là s'étaient-ils donné la peine de quitter leur ville, d'amorcer un petit voyage pour aller jusqu'à Lydda où se trouvait Pierre? Voyez-vous, les œuvres parlent toujours en notre faveur. Alléluia. Ils sont arrivés dans cette ville. Attendez le temps. Voilà. Ils sont arrivés dans cette ville. Et la Bible nous dit, ils allèrent trouver Pierre. Et quand ils arrivent, eh bien, ils vont le supplier. Eh oui. Qu'est-ce que c'est supplier? C'est demander, mes amis, quelque chose à quelqu'un avec une grande insistance, avec humilité. Voyez-vous? Supplier, c'est implorer. Ils l'ont imploré. Ils l'ont supplié. Ils ont insisté. Voyez, s'il te plaît, viens avec nous. Nous sommes dans un grand besoin. Vous voyez? Donc, ils étaient convaincus qu'en faisant cette démarche auprès de la porte de l'apôtre, quelque chose se passerait. Et c'est ainsi que Pierre, Simon Pierre, va donc se lever et partir avec ses bien-aimés. Et quand il arrive, on avait déjà lavé la dépouille de Tabitha, de cette femme disciple, et on avait placé ça dans la chambre haute. Pierre arrive, il fait sortir tout le monde, il monte dans la chambre haute et se mit à prier. Il se mit à implorer, voyez-vous. Mais avant cela, quand il est arrivé, eh bien les veuves, les personnes qui avaient bénéficié des largesses, voyez-vous, de toutes ces bonnes œuvres de cette sœur, se sont approchées de lui dans les larmes, dans les pleurs, et lui ont montré quoi? Les tuniques, les manteaux que cette sœur faisait et donnait à toutes ces femmes veuves, à toutes ces personnes qui étaient dans le besoin. Les œuvres ont parlé en faveur de cette sœur. Elle était déjà partie. Si on lui avait posé la question, là où elle était, que Tabitha, veux-tu revenir? D'après vous, quelle aurait été sa réponse? Elle dit, mais revenir pourquoi? L'apôtre Paul pouvait dire, j'aime mieux quitter ce corps pour m'en aller auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'il y a de l'autre côté vaut plus que tout ce qu'il y a sur terre. Voyez-vous, c'est impossible de comparer la beauté de ce lieu-là, de comparer les richesses de ce lieu-là avec tout ce qu'il y a comme beauté, tout ce qu'il y a comme richesse sur cette terre. Et donc pour un enfant de Dieu, arriver au terme de son voyage, passer dans l'éternité avec le Seigneur, est la chose la plus importante, est la chose la plus extraordinaire qui soit. Car si nous luttons aujourd'hui, si nous nous battons aujourd'hui, si nous endurons toutes sortes de coups pour le Seigneur, si nous persévérons dans notre foi, alors que nous sommes entourés par toutes sortes d'épreuves, c'est parce que nous avons un objectif. Quel est cet objectif-là? C'est de partager son éternité avec lui, dans la félicité, dans la gloire. Alléluia. Si nous persévérons, si nous luttons, si nous combattons, nous continuons à combattre le bon combat de la foi, c'est dans le but, un jour, d'être avec lui et de passer toute l'éternité dans son ciel de gloire, n'est-ce pas? Et donc, nous pouvons conclure que cette sœur, après sa mort, était très bien parce qu'elle était auprès de son maître. Et donc, si on lui avait posé la question, elle aurait dit, Seigneur, je suis bien ici. J'ai quitté ce corps de chair, ce corps marqué par la faiblesse, pour venir auprès de toi. Pourquoi encore rentrer? Et donc, si le Seigneur a accompli le miracle, ce n'était pas tant pour elle. Elle était bien, oui ou non? Elle était dans la gloire, dans la félicité. Si le Seigneur a ramené cette sœur, c'était par rapport à toutes ces personnes qui ont eu à pleurer, qui ont eu à exhiber les œuvres, les bonnes œuvres, eh bien, les largesses, bref, tout ce que cette femme a eu à faire par rapport aux autres. Mes amis, nos œuvres parlent. Oh, alléluia. Nous ne devons jamais nous lasser de faire le bien. Continuons à le faire. Et Tabitha a expérimenté cela. Et la deuxième illustration, eh bien, c'est notre ami, oui, notre ami Corneille, qui était donc un officier dans l'armée italienne. Cet officier romain avait fini par croire dans le Dieu d'Israël. Il avait compris que le panthéon romain, eh bien, n'était qu'une idolâtrie abjecte, et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, un seul qui était digne d'être loué, d'être servi, à savoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, oui, le Dieu d'Israël, alléluia. Et il avait donc adhéré à la foi israélite. Et cela l'avait amené à chercher Dieu, à mener une vie marquée par la crainte de Dieu, à poser des actes, mes amis, des actes de générosité, des aumônes, oh, alléluia. Et donc des œuvres de charité, des œuvres sociales. Il a eu donc à être actif à ce niveau-là, jusqu'au jour où la Bible nous dit, alors qu'il était en prière, vers la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, un ange lui apparaît dans une vision. Et l'ange va le rassurer. L'ange va lui dire, tes prières et tes aumônes, donc Actes chapitre 10, verset 4, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Et pour mieux comprendre, mieux apprécier les propos de l'ange, voyez, eh bien, j'ai recouru, ou je recours souvent, quand je dois me référer à ce passage, à la traduction littérale. Voilà ce que l'ange dit en substance. Tes prières et tes aumônes se sont dressées à mémorial devant Dieu. Oh, alléluia. Se sont dressées. Donc, toutes les fois que tu as posé de gestes, tu as béni les uns les autres avec l'aumône, tu as béni les uns les autres en rencontrant leurs besoins, à chaque fois, eh bien, tu as bâti un mémorial devant Dieu. Et maintenant, Dieu se souvient de tout ce que tu as fait. Oh, alléluia. Maintenant, voix de Jean Jopé ou à Jaffa pour aller chercher un certain Simon-Pierre, et c'est comme ça qu'il va les envoyer Il va envoyer ses serviteurs pour aller chercher Pierre, et quand Pierre va arriver, il va prêcher la parole de Dieu, les gens vont être bénis, alléluia. Il avait semé, matériellement parlant, et il a récolté, spirituellement parlant, alléluia, et gloire au Seigneur. Mes amis, comme Tabitha, comme Corneille, nous sommes appelés à être actifs à ce niveau de relation. C'est-à-dire être actifs dans notre relation par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à tout ce qui appartient au Seigneur, comme le serviteur esclave de la parabole a eu un rapport, a eu une relation, eh bien, particulière avec les troupeaux de son maître, mais aussi avec le champ de son maître. Alléluia. Et gloire au Seigneur. C'est ainsi que Paul, écrivant aux Galates au chapitre 6, versets 9 à 10, dit ceci, ne nous lassons pas, oh alléluia, ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous fatiguons pas de faire le bien, même si en retour vous récoltez de l'ingratitude, ne le faites pas pour les hommes, faites-le d'abord pour le Seigneur lui-même. Alléluia. Car lui, tôt ou tard, il se souviendra de tout ce que tu auras fait aux uns aux autres. Dieu ne répond pas, ne nous donne pas une moisson abondante par rapport à ce que nous aurons semé en vertu de l'attitude des uns et des autres. Non, nous avons semé. Peu importe que les gens, en retour, nous aient manifesté de l'ingratitude, mais pour Dieu, nous aurons posé la bonne semence. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. Car, dit la parole de Dieu, nous moissonnerons au temps convenable. Tabitha a moissonné. Sa famille a moissonné. Imaginez-vous un peu la famille de Tabitha. Quand Pierre, finalement, appelle tout le monde en disant, voilà, elle est vivante. Tabitha qui se met debout. Tabitha qui quitte la chambre haute, qui descend avec l'apôtre et les autres veuves, pourriez-vous vous imaginer la joie de sa famille, la joie de ses amis, la joie de tous ses saints, de tous ses frères et sœurs, de l'église, de Jaffa, voyez, ou de Lydda plutôt. Nous devons, mes amis, être actifs et ne pas nous fatiguer. Car, au temps convenable, nous récolterons. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur le plan, à ce niveau de relation avec tout ce qui appartient au Seigneur, est comme de la semence que nous jetons dans la terre. Et un jour, cette semence germera. Un jour, cette semence produira du fruit. Et ça sera pour notre bonheur. Et ça sera pour notre joie, alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à ne pas nous lasser, à continuer à faire le bien. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à être actif à ce niveau de relation. Tu es appelé à être actif avec tout ce que le Seigneur t'a donné. S'il t'a béni, ce n'est pas pour que tu fasses de tes bénédictions matérielles ou financières une sorte de piédestal sur lequel tu vas monter pour que tout le monde t'admire, pour que tout le monde t'applaudisse, pour que tout le monde parle de toi comme étant l'homme le plus riche, etc. Toutes ces richesses-là, si vous ne les faites pas valoriser, vous les laisserez ici-bas. Vous partirez nu comme un ver de terre, car il n'y a personne qui puisse emporter dans sa tombe ses trésors, son argent, ses maisons, ses appartements, rien. Nus nous sommes sortis du sein de nos mères, nus nous retournerons dans le sein de la terre. Job l'avait dit, l'Éternel a donné, donc c'est l'Éternel qui donne. Alors profitons de l'occasion pour faire valoir ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons les travaux ici, c'est une occasion de vous rendre utile par rapport aux travaux. Voyez, ce temple appartient au Seigneur, oui ou non? Et quand vous posez des gestes envers ce temple, en soutenant la construction, en donnant vos offrandes, en donnant vos dîmes, etc., pour que l'œuvre de Dieu, eh bien, avance et prospère ici à la borne, vous êtes en train de vous rendre actif à ce niveau de la relation que nous avons avec les biens, avec tout ce qui appartient au Seigneur. Alléluia. Et gloire au Seigneur. En faisant du bien aux brebis du Seigneur, en s'investissant et en investissant ce que le Seigneur nous a donné, eh bien, en nous occupant des besoins des âmes pour lesquelles Jésus est mort, eh bien, nous nous rendons actifs dans cette relation qui nous lie au bien, qui nous lie à l'œuvre de Dieu. Oh, gloire au Seigneur, alléluia. Avec l'espoir de récolter un jour. Les biens que tu fais, c'est de la semence que tu jettes dans la terre. Ce n'est jamais perdu. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est que même après votre mort, eh bien, cette semence produira du fruit. Ceux qui vont rester pourront en jouir, alléluia. Votre postérité, vos enfants, vos petits-enfants, c'est ce qui fait aujourd'hui, vous voyez, des gens qui prospèrent. Ils connaissent des promotions alors qu'ils n'ont rien à cirer avec Dieu. Ils ne le connaissent pas, ils mènent une vie de débauche, une vie d'idolâtrie, mais tout ce qu'ils entreprennent réussit. Pourquoi? Eh bien, vous ne savez pas qui a été leur parent. Peut-être une grand-mère qui était une femme fervente, une femme qui craignait Dieu, qui passait du temps dans la prière, qui priait pour ses enfants et ses petits-enfants, qui demandait jour et nuit au Seigneur, bénis ma postérité, je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants prospèrent. Et puis un jour, le Seigneur appelle cette dame, elle s'en va, mais les biens qu'elle aura faits, les prières qu'elle aura semées, eh bien, sera restée et finira un jour par produire du fruit. Et c'est comme ça que vous voyez les gens aller de l'avant. Quelque part, quelquefois, ce n'est pas forcément à cause de leur intelligence, à cause de la force de leur caractère. Voyez, quelquefois, ce n'est pas parce que les circonstances leur sont favorables, mais c'est parce qu'il y a eu quelqu'un dans leur lignée qui a été un homme de foi, qui a été une femme de foi. Alors, mon frère et ma sœur, continue à prier. Voilà. Afin qu'un jour, en allant, que tu laisses quelque chose derrière toi. Et quand tu vas aller de l'autre côté, tu trouveras tous les biens que tu auras faits. Car les œuvres, eh bien, accompagnent le juste après leur mort. Alors, transformez vos richesses matérielles, vos richesses, quelles qu'elles soient, en de bénédictions éternelles. Comment? En investissant dans l'œuvre de Dieu. Je connus un frère en Belgique qui aimait beaucoup le Seigneur, un Belge évidemment, qui était marié, mais lui et son épouse n'avaient pas eu d'enfant. Mais c'était un homme qui aimait beaucoup le Seigneur et qui travaillait à l'époque aux ASEC. Les anciens peuvent se souvenir des ASEC. Des ateliers de construction électrique de Charleroi, on en avait même ici, qui construisaient les transformateurs pour la SNEL, etc., et pour tant d'autres entreprises. Et puis un jour, par la grâce de Dieu, cet homme a développé quelque chose pour faciliter la production je ne sais de quoi. Et en récompense, pour le récompenser, l'entreprise lui avait donné une grosse somme d'argent. Ce frère a pris cet argent, il est allé, il a construit une église avec un appartement au-dessus en disant, le pasteur qui viendra un jour diriger cette église puisse y loger. Je connais cette église. Cette église est encore là. Voyez-vous, c'est une église des assemblées de Dieu. Entre-temps, là, j'ai passé par là, je me souviens encore, son épouse est décédée, il est resté seul, il n'avait pas d'enfant, il s'est retrouvé dans un home pour personnes âgées. Et je me souviens avec un un de mes anciens, nous allions lui rendre visite régulièrement. Et il nous parlait quelquefois avec beaucoup d'émotion. Ce témoignage m'avait tellement touché, j'avais réalisé que tout n'est que vanité. Je dis, cet homme va s'en aller. Il est au crépuscule de son existence, mais le bien qu'il a fait va continuer à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans cette église, c'est une grande église des Assemblées de Dieu qui fait la fierté des Assemblées de Dieu de Belgique. Et je suis convaincu que la plupart de tous ces jeunes ne savent pas comment cette église est arrivée à l'existence. Nos œuvres, mes amis, nous précèdent, nous accompagnent. Nos œuvres, les bonnes œuvres, se dressent devant Dieu comme des mémorials. Un jour, il s'en souviendra. Alors ne te lasse pas, ne te fatigue pas de faire du bien. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Voilà donc ces deux exemples, vous en trouverez tant d'autres à travers toute la Bible, de gens qui ont fait du bien aux autres et qui en retour, eh bien, ont été bénis par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et avant de clore ce chapitre concernant cette relation que nous sommes appelés à avoir avec tout ce qui appartient au Maître, j'aimerais terminer avec la motivation. Qu'est-ce qui nous motive à être actif à ce niveau-là, à être actif sur le plan social, à être actif sur le plan matériel, etc. La motivation est importante. Dans Jean chapitre 21, nous voyons ce qui devrait et doit être notre motivation à chaque fois que nous posons des gestes matériels pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, c'est le Seigneur qui, après avoir mangé avec ses disciples, se tourne vers Simon Pierre et lui pose cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime, on revient. Oui Seigneur, je t'aime. Et de nouveau, alors le Seigneur lui dit, prends soin de mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, oui, je t'aime. Alors, prends soin de mes agneaux. Deuxième fois. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Une troisième fois. Voyez. Pierre est attristé. Il a l'impression que son maître ne le croit pas. Mais le Seigneur savait exactement ce qu'il faisait. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alléluia. Mes amis, Pierre avait déjà été actif auprès du Seigneur dans l'œuvre de Dieu, oui ou non? Il avait reçu cet appel, cette vocation, cette onction d'aller prêcher la bonne nouvelle, de prier pour les malades, de ressusciter les morts. Pierre avait obéi avec les autres disciples, voyez-vous. Ils ont eu à prêcher l'évangile. Ils ont accompagné le maître pendant tout son ministère, là, en Israël. Donc, Pierre avait déjà été actif. Mais cette fois-ci, il était temps que Pierre comprenne que s'il avait accompagné le maître, s'il avait fait toutes ces choses parce qu'il fallait le faire, comme par devoir, cette fois-ci, il devait agir par amour. Alléluia. Nous devons agir par amour, mes amis, par amour pour son Église, par amour pour son œuvre, par amour pour les bien-aimés. Voyez-vous, j'aime l'Église du Seigneur, et par amour pour mon Sauveur, par amour pour le Seigneur et pour son œuvre, alors je la soutiens, alors je prie pour que cette Église aille de l'avant. L'amour doit être notre motivation. Déjà à ce niveau de relation, par rapport aux choses qui appartiennent au Seigneur, nous ne devrions pas faire ou agir dans le but de récolter tout de suite, c'est-à-dire avec des motivations impures. Nous devons le faire avec amour et par amour. Que je récolte, que je moissonne ou pas, peu importe. Mais Dieu veut que je sois actif par rapport à ses biens, par rapport à son œuvre. Et je le fais par amour pour le Seigneur, par amour pour les brebis. Alléluia. Par amour pour le champ dans lequel il m'a placé. Je fais le travail sous le soleil. Je dois arracher des herbes, les herbes mauvaises qui étouffent la semence du Seigneur. Je dois enlever les cailloux. Je dois enlever les ronces. Eh bien, sous un soleil accablant, je le fais non pas en murmurant. Non, je le fais par amour, car je sais que lui a plus que fait pour moi. L'amour doit être notre motivation. Alléluia. À ce niveau déjà. Voilà. Quand tu donnes, fais-le de tout ton cœur. Ne le fais pas pour que les gens sachent que toi tu as donné autant. Tu aurais ta récompense. Que ce que ta main gauche donne ne soit pas connu de ta main droite. Voilà. Ne sonne pas de la trompette quand tu poses un geste pour que tout le monde parle de toi en disant, oh là là, lui, c'est la personnification de bonnes œuvres. Voilà. Pour se mettre en évidence. Non! Fais-le pour ton Dieu. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. L'amour. Aimes-tu l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, je bâtirai mon église et rien ne prévaudra contre elle. Il a aimé son église, disent encore les Saintes Écritures, au point de donner sa vie pour son église. Comme il a aimé son église, et comme il aime encore son église, nous aussi, nous devons aimer son église. Voyez-vous, nous devons prier pour elle. Nous devons prier pour tous ceux qu'il a fait lever dans notre église pour être actifs d'une manière ou d'une autre sur le plan spirituel. Nous devons soutenir son œuvre avec les moyens, avec tout ce qu'il a mis à notre disposition. L'amour. Oui, encore l'amour. Alléluia. Et un dernier texte, et puis nous passerons un peu de temps dans la prière. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5. Là aussi, nous voyons les attitudes que nous devons avoir, ou du moins la motivation, lorsque nous voulons nous rendre utiles par rapport à l'œuvre de Dieu, que ce soit par rapport au champ de Dieu, que ce soit le troupeau du Seigneur, ce sont deux images que le Seigneur utilise pour illustrer et son œuvre. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est l'apôtre Pierre, hein. Vous rappelez, dans Jean, le Seigneur lui avait posé la question à trois reprises, n'est-ce pas? Pierre, m'aimes-tu? Ah, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Trois fois. Eh bien, ici, l'homme avait compris la leçon. Et tout au long de sa vie, il a vécu en aimant l'église du Seigneur, au point même de mourir, car il est mort en martyr. Voilà ce qu'il nous dit. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de souffrance du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Regardez l'humilité. Il se présente comme ancien. L'homme qui dit, je suis ancien comme vous. Voyez-vous, et l'homme, mes amis, qui avait vécu avec le Seigneur, l'homme que Dieu a eu à utiliser puissamment, voyez-vous, à la fin de sa vie, l'homme a compris qu'il n'était pas différent des autres. Alléluia. Il ne cherche pas à mettre en évidence ses titres. Non, voyez-vous, aujourd'hui les gens courent après les titres. Les apôtres, il y en a partout. Moi, je le vois même dans notre mouvement, les assemblées de Dieu, des apôtres partout. Voyez, du jour au lendemain, le frère commence à signer apôtre, et je ne sais pas qui finalement reconnaît tout ce ministère-là, parce qu'un ministère doit être reconnu Tu ne peux pas t'autoproclamer du jour au lendemain, Naza apôtre. Je suis prophète. Voilà. Du jour au lendemain, je suis archevêque. Voilà. Il y en a qui sont des évêques ici à Kinshasa. Leurs églises, ce sont les annexes de la borne. Vous savez ça? Vous les voyez pavaner, se pavaner avec des toges, avec des robes, un but de même. Mes amis, c'est pavanant, parfumé de, comment, d'orgueil. Voyez. En réalité, allez voir leurs églises. Voilà. Ils sont sur tous les plateaux de télévision. Ils parlent. Ils sont accueillis. Voyez-vous? Ils donnent l'impression d'être des gens. Mais sur le plan spirituel, ils sont nulle part. C'est des églises qui sont nos annexes. Ouais. Je sais ce que je dis. Soyez modestes. Travaillez, faites avancer l'œuvre de Dieu. Maintenant, vous pouvez, à la fin, vous habiller comme vous voulez. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Mais si vous mettez en évidence votre apparence, votre allure physique, ça ne sert à rien. Si derrière tout ça, il n'y a pas des œuvres qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, ancien, participant, témoin de souffrance du Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Verset 2. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Voyez. Nourrissez le peuple de Dieu. Donnez à manger au peuple de Dieu. Ça, c'est notre premier appel. Voilà. Mais il y en a aujourd'hui qui sont plus politiques qu'autre chose. La politique distrait. Laissez la politique aux politiques. Il y en a qui ont fait des études de Sciences Po. Voilà. Ils sont plus intelligents que nous pour comprendre les enjeux, les différents enjeux politiques, économiques et tout ça. Soyons modestes. Le fait d'être pasteur ne veut pas dire que nous devenions des polyvalents, que nous connaissons tout, que nous aurions acquis une sorte de science infuse qui nous permettrait de maîtriser les sciences politiques, économiques, tout ça. Il y en a quand ils parlent, vous avez l'impression que c'est des économistes. Ah, vous savez, en économie, il a lu quelques articles. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un économiste. Hein. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Regardez maintenant la suite. Non par contrainte. Ah. Non par obligation. Voyez-vous? Mais volontairement selon Dieu. De bon gré. De tout votre cœur. Oh, alléluia. Quand on parle de bon gré, quand on parle de le faire volontairement, quand on parle de le faire de tout son cœur, on est là dans le domaine de la motivation, l'amour. Nous devons aimer le troupeau du Seigneur et le faire paître par amour, non pas par contrainte. Parce que je dois avoir absolument un salaire, à ce moment-là, ben, je commence à faire ceci ou à faire cela. Non. Ensuite, ni pour un gain sordide, voyez-vous, ou, une autre version dit, ni par cupidité, ah, un gain sordide, mais de bon cœur. Combien font le travail de Dieu, combien sont actifs dans l'œuvre de Dieu en ayant des motivations pures. Il y en a un qui essaye de tout faire pour être remarqué, afin que les gens parlent toujours d'eux. Oh là là, cette sœur-là, chapeau. Voilà. Si vous le faites pour que les gens vous voient, vous avez votre salaire, vous avez votre récompense. Mais faites-le pour le Seigneur. Voyez-vous? Faites-le pour celui qui vous a appelé. Non pour un gain sordide, par cupidité, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés. Voyez-vous? Non en faisant appel à un pouvoir autoritaire. Combien de pasteurs tyrannisent leurs brebis? De vrais despotes. Voyez-vous? de vrais dictateurs. Ils considèrent l'Église comme leur œuvre, comme leur propriété personnelle. Voilà. Ils sont la conscience morale de l'Église, la conscience intellectuelle de l'Église. Ils sont tout. Ils occupent toute la place. Et Jésus, dans tout cela, est nulle part. Voyez-vous? Nous ne devons pas tyranniser, mes amis, les brebis du Seigneur. Alléluia. Mais nous devons être les modèles pour le troupeau. Qu'est-ce que les chrétiens disent de leur pasteur? Ça serait une bonne chose de faire un petit sondage, hein? Oui, oui. En ville, prenez un micro-trottoir. Demandez aux gens, qu'est-ce que tu penses? Je vous assure, vous seriez surpris. Quoi? Ah, ne me parlez pas de ça. Combien ont été victimes d'escroqueries, d'arnaques de la part des pasteurs, de la part de faux prophètes? Voyez-vous? Combien ont même perdu leurs épouses, remorquées par un pasteur? J'en connais. Nous sommes en train de gérer un dossier. Un pasteur remorque la femme d'autrui. C'est quand même grave. Je ne sais pas si c'est un ancien ou un diacre, mais enfin, peu importe. Voyez. Combien? Allez poser la question à cet homme-là. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il pense des pasteurs? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Ne m'en parlez plus. Il y a beaucoup qui sont retournés dans leurs anciennes églises. Voyez-vous, parce que ils ont été déçus. Or, la Bible nous dit quoi? Nous devons devenir des modèles. Modèles en matière d'intégrité morale. Voyez-vous? En matière de gestion. Modèle en tout. Voyez? Voilà la motivation. L'amour. Encore l'amour et toujours l'amour. Que ce soit l'amour qui nous porte et qui nous amène à être actifs à ce niveau de relation, c'est-à-dire au niveau de la relation que nous avons avec les biens de notre maître, avec son œuvre. Alléluia. Continuons à faire du bien. À chaque fois que nous le faisons, la Bible nous dit, nous semons. Et un jour, nous récolterons. Alléluia. Tous les biens que nous faisons, mes amis, eh bien, sont là comme un mémorial que nous bâtissons devant le Seigneur. Un jour, il se souviendra de nous. Alléluia. Même après notre départ, il pourra bénir notre postérité parce que nous aurons été fidèles envers lui. Parce que nous aurons, eh bien, investi dans son royaume et pour sa gloire. Que son nom soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous voulons demander au Seigneur de nous aider. Nous aider dans notre relation envers son œuvre. À être actif dans les bonnes œuvres. À semer pour sa gloire. Et en ayant comme motivation l'amour, encore l'amour, et toujours l'amour. Que chacun prie, demande au Seigneur de l'aider à exceller à ce niveau de relation. Demandez au Seigneur de vous aider à être plus actif dans tout ce qui appartient au Seigneur. Si nous travaillons notre relation, celle que nous avons avec les biens du Maître, avec son œuvre, eh bien, nous aurons rempli une bonne condition pour que lui, après que nous ayons rempli la deuxième condition, lui puisse susciter en nous cette foi, la foi de Dieu qui nous amène au miracle, qui nous fait entrer dans le domaine du surnaturel. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Et de nous avoir montré une fois de plus l'importance d'être actif dans tout ce qui t'appartient, Seigneur. Il y a tellement de choses à faire dans le cadre de ton Église que tu nous as donné des moyens, tu nous as donné des compétences, Tu nous as doté des talents. Tu as répandu de toutes sortes de dons sur chacun de nous. Tout cela pour que nous soyons, Seigneur, actifs à ce niveau, Seigneur, de notre relation. Oh, aide-nous à semer, Seigneur, à nous inspirer de la vie des habitants, de la vie des corneilles. Car tôt ou tard, ce que nous faisons finira par germer et par produire au temps convenable une grande moisson. Merci pour tout. Merci Seigneur. Après ce message, nous allons te donner notre offrande. Nous allons te donner notre dîme. Nous allons, Seigneur, donner, Seigneur, notre argent pour soutenir les travaux de construction. Et bien que tout cela soit considéré, ô Dieu, comme des occasions de nous rendre utiles par rapport à ton œuvre. Et que l'amour pour toi, l'amour pour ton Église, l'amour, Seigneur, pour ton œuvre, puisse être notre seule motivation. Oui, bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen.